Bonjour, chers auditeurs et auditrices de Derrière l'image, toujours une heure de cinéma Radio Centre-Ville. Nous poursuivons notre émission avec Catherine Legault. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Afin de discuter de Sœurs, rêves et variations. Un premier long-métrage documentaire. Hein? Mais avant, alors Catherine, tu étais monteuse. Hein? Et dans mes petites notes, j'ai été vérifié. Puis en plus, tu avais remporté le premier Iris hein, du montage documentaire. Il y a quelques années, avec Démolition familiale. Et par la suite, bien sûr, participer au beau film de Serge Guerre, La Trame à mère. Comment qu'on passe de réalisatrice à comment on passe de monteuse hein, à réalisatrice documentaire? Ça te trottait un petit peu dans la tête, puis tu dis, il fallait que je participe un peu à la création en tant que réalisatrice, ou c'est le fruit du hasard?
Bien, je dirais que ça a été quelque chose d'assez naturel. Oh. Depuis le début, moi, j'ai étudié à l'Université Concordia. Donc, on nous apprend, évidemment, à la création en général, là, de comment faire des films. Mais je m'étais toujours dit que je ne ferais pas un film que je réaliserais moi-même si j'avais rien à dire.
Okay.
Donc, c'est toujours ça la question aussi. Moi, je suis monteuse de métier, je le suis toujours aujourd'hui. Alors, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire et qui me passionne et que je vais continuer de faire. Mais j'ai un projet qui s'est présenté un peu à moi. Je voulais faire quelque chose sur le processus de création, puis je suis tombée sur cette histoire-là. Et là, ça m'a donné envie d'aller de l'avant. Puis on ne se rend pas vraiment compte dans quoi on s'embarque jusqu'à ce qu'on soit rendu jusqu'au cou, comme on dit. Puis là, on continue, on va de l'avant. Donc, j'ai vraiment appris... c'est sûr que j'ai appris le métier à mesure, mais je connaissais aussi le métier de... À travers le montage, c'est la meilleure école aussi parce que là, on travaille avec des réalisateurs, on voit les bons coups, les moins bons coups, et puis qu'est-ce qui est possible de trafiquer en post-production ou pas. Donc, c'est toujours comment travailler avec la contrainte, finalement. Donc, c'est sûr que ça a été une belle école, puis ça m'a bien servi tout au long de ma réalisation.
Et donc, cette histoire dont tu parlais, c'est l'histoire de Jaiza et de Tyr. Hein? Deux sœurs hein? Qui avaient des parents en Islande, qui sont à leur façon, je veux dire, des artistes, hein? Une plus associée au monde de la musique, l'autre plus associée au monde des arts, des performances. Comment tu les as connues?
Tyr Jami, c'était ma professeure de violoncelle pendant près de 10 ans.
OK.
Alors, c'est comme ça que je l'ai connue. Au début, je voulais quelque chose qui était moins encadré, donc je ne voulais pas aller dans une école de musique à proprement dit. Puis, j'ai fait des recherches, je suis tombée sur elle. Puis, à l'époque, elle avait un groupe de musique qui s'appelait The Wings. Yeah. Et puis, je suis allée les voir en spectacle. La première fois que j'ai rencontré Tyr, c'était derrière sa table de marchandises à vendre des éléments. Puis, donc, c'est ça, ça a été ma professeure de musique. Puis, ensuite, moi, évidemment, j'ai rencontré Jaiza parce qu'elle collaborait souvent ensemble. Puis, Jaiza joue aussi de l'alto. Alors, c'est comme ça que j'ai rencontré sa sœur. Puis, j'ai été témoin de leur projet qui était tout naissant à l'époque, là, Singia, le projet musical de Tyr, puis toutes les projections de Jaiza. Donc, au début, ça l'a vraiment été... je suis tombée en amour avec leur création artistique, là, avec leur style, puis... ce qu'elle faisait là, d'un point de vue artistique. Puis ensuite, j'ai compris qu'en fait, il y avait tout un élément familial qui était vraiment intéressant que j'ai décidé de mettre de l'avant.
Oui, parce que dans les faits, dans le film, il y a des images d'archives de sa grand-mère.
Hein, qui c'est sont... son arrière-grand-mère.
Arrière-grand-mère, c'est vrai. Hein. Et de sa mère.
Hein. Oui.
Et même un des derniers... Dans le film, entre autres, un des derniers d'albums est un peu dédié là, à cette arrière-grand-mère. Le film, dans un certain sens, parle de cette relation un peu intergénérationnelle et comment, finalement, tous ces dépôts hein, qui se retrouvent dans la mémoire forgent la création ou incitent, finalement, à un acte créateur.
Absolument. Oui, c'est vraiment une inspiration, leur arrière-grand-mère. Puis... à travers ça, évidemment, leur héritage culturel islandais. Toute la question du passage intergénérationnel, effectivement, qui est vraiment, qui moi m'intéresse beaucoup, qui m'interpelle. Puis aussi, qu'est-ce que ça veut dire être la quatrième génération d'immigrants qui n'avaient jamais visité l'Islande à l'époque, elles ne parlent pas islandais. Donc, comment est-ce qu'on connecte avec cette culture-là? Puis, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Donc là, c'est vraiment toute la réinterprétation, en fait, d'une histoire familiale. Puis, d'où le titre « Sœurs, rêves et variations ». Donc, c'est la variation aussi de génération en génération. Puis, c'est comment parce que c'est des femmes, donc comment chacune se réapproprie en fait cette histoire-là.
Et tu étais un peu chanceuse, je dirais, parce que cette arrière-grand-mère envoyait des chansons sur des vieilles cassettes. Hein. Il y avait certaines images d'archives hein, aussi, je pense, qui ont été filmées par leur père et leur mère, parce que c'était des artistes et j'ai l'impression que pour eux, c'était important aussi d'avoir ces traces. Donc, tu as eu un matériel, je veux dire, qui t'a permis hein, aussi, je veux dire, visuellement, hein, de raconter quelque chose.
Ah, absolument. J'ai eu un accès extraordinaire aux archives familiales. Puis en fait, ça a été de découverte en découverte. Donc, effectivement, on a une photographie de l'arrière-grand-mère qui date de 1917, prise en Islande. Mmh. Puis on a aussi trouvé des bobines 8 mm, 16 mm qui avaient été filmées au Manitoba, à Selkirk. Donc, vraiment, oui, il y a eu beaucoup de belles découvertes. Puis, évidemment, cet accès-là, ça a été un long travail de documentation, mais qui a bien servi en bout de ligne parce que toutes les animations, finalement, ont été construites à partir de ces éléments d'archives-là. Moi, j'ai fait également des recherches de mon côté là, à la Bibliothèque d'archives nationales du Canada pour aller retrouver la liste des passagers. Donc, quand on la voit à l'écran, c'est effectivement la vraie liste des passagers qui indique le nom d'Ingibjörg quand elle a immigré au Canada en 1924. Le bateau aussi des immigrants, c'est un bateau d'époque. Donc, tout a été vraiment pensé, même s'il y a une fantaisie, là, pensé dans une optique documentaire.
Et tu le mentionnais, bien sûr, tu parlais d'animation. Tantôt, on parlait d'éléments visuels. Bien sûr, ça ajoute l'animation. Il me semble, en tout cas, qu'il y avait vraiment une volonté de respecter, je dirais, l'esthétique hein, de Tyr et à la fois de Jazza, là, lorsqu'elle fait, je veux dire, elle-même ses propres travail de création. Donc, c'est important, je veux dire, d'avoir, parce que si on peut résumer un petit peu le style de musique que fait Tyr. On parle de pop électroacoustique, à la limite presque métaphysique dans un certain sens, mais avec une ouverture hein, je veux dire, très fantaisiste, très éclatée. Donc, c'est important pour toi, je veux dire, de trouver finalement une écriture cinématographique qui était en respect, je veux dire, du leur travail de création.
Ah oui, absolument. Puis ça, je pense que c'est vrai de tout film, là.
Oui, c'est vrai, mais c'est pas toujours le cas.
disons que c'était particulièrement important, en fait, de respecter leur esthétique, puis que j'aime beaucoup à la base, là. Donc, j'ai vraiment essayé de faire une continuité, mais je savais que même si elles font des choses respectives que j'aime beaucoup, je savais que la musique de Singha était pas la bonne pour la musique originale du film. Même chose que l'esthétique de Jessa, je savais que j'avais besoin d'une animation qui était vraiment spécifique pour le film. Je pouvais pas aller piger dans des œuvres déjà existantes. Donc, c'est vraiment deux volets qui ont été développés selon ma vision puis selon les besoins du film.
Mais il y a une harmonie quand même.
Oui, tout à fait, parce qu'en fait, elles ont été collaboratrices. Donc, il y a vraiment la dynamique, en fait, de réalisatrice qui est en observation avec elles. Là, tout d'un coup, on devenait collaboratrice en post-production. Donc, avec Jessa, en fait, c'est que moi, j'ai fait un premier montage audio avec les cassettes audio de l'arrière-grand-mère, puis aussi une petite conversation que Tyr et Jessa avaient eue quand elles étaient très jeunes. Quand elles ont accidentellement enregistré sur les cassettes de leur arrière-grand-mère. Puis donc, moi, j'ai fait des montages pour le timing, évidemment, le propos que j'ai placé dans le film. Puis ensuite, j'ai fait un storyboard avec des images existantes que j'avais déjà filmées moi-même ou des archives, puis différents éléments. Puis à travers de ça, on a créé les animations. Donc là, je demandais à Jessa de faire une illustration. Par exemple, j'avais l'idée de faire un volcan qui crachait des pissenlits plutôt que de la lave. Ouais. C'est une image que j'avais depuis un bon moment.
Accompagné d'une des chansons, je veux dire, de l'arrière-grand-mère.
Exactement. C'est vraiment dans le but, en fait, d'imager la poésie, puis un peu aussi dans l'idée de ce que les jeunes filles, quand elles étaient petites, pouvaient s'imaginer de ce que l'Islande était. Donc, c'est un peu comme un livre pour enfants. Ouais. Tu sais, les éléments sont un peu disproportionnés. On n'est pas dans le réalisme, on est vraiment dans la fantaisie, là, à certains égards. Puis là, donc, Jessa faisait les illustrations qui ensuite ont été animées par d'autres animateurs qui ont fait le compositing. Mais Jessa a aussi fait des illustrations animées là, à certains endroits, donc dépendant des besoins. Puis même chose pour la trame sonore. Là, donc, Tyr a co-composé la trame sonore avec deux autres musiciens, là, Justin Goswell et Eric Shaw. Puis donc... elle travaillait des mélodies islandaises. Évidemment, il y a la sonorité de son violoncelle qui reste tout au long du film.
Qui donc, est magnifique, hein, qu'elle joue d'une façon, je veux dire, magnifique. Hein.
Très sentie, oui.
Ouais, grande sensibilité. Hein.
Puis donc, ça aussi, au niveau sonore, il y a une continuité, là, absolument, mais qui fait quand même une brisure avec le son de Singha. Là, c'est vraiment une trame pour accompagner les scènes du film.
J'ai remarqué que ton film a été projeté dans plusieurs festivals qu'on dit musique. Hein. Mais, je ne sais pas, mais en regardant le film, je n'ai pas l'impression que c'est un film qui parle tant de la musique. La musique est là comme en arrière-fond. Pour moi, c'est vraiment un film presque métaphysique sur, effectivement, cette relation qui s'établit entre les sœurs, mais fondamentalement sur le geste de la création. Comment ce geste-là origine, comment qu'on peut arriver en faire corps, comment qu'on peut aussi le transformer en fonction de nos propres expériences et comment y faire confiance.
Mm-hmm. Oui, mais c'est vrai qu'il va jouer en fait au Festival de Nashville dans une catégorie musique, mais sinon il a quand même tourné dans d'autres... souvent en sélection officielle, tu sais, dans différents
Mais en fait,
festivals.
Je mentionnais ça parce que, oui, on parlait beaucoup de la musique, on parle beaucoup du travail, finalement, de Tyr avec son groupe musical, mais pour moi, c'est pas ça le film. Le film va beaucoup plus loin que, je veux dire, cet aspect musical.
Oui, oui, complètement. Puis en fait, pour elle, la création, c'est vraiment quelque chose au quotidien. Donc, c'est dans toutes les petits gestes. C'est Tyr, elle est musicienne, mais elle fait aussi des dessins, puis elle fait de la couture. Puis Jessa, elle est multidisciplinaire. Donc, c'est vraiment très large, en fait. C'est sûr que moi, j'ai dû faire des choix parce qu'elles sont très prolifiques. Puis, en fait, c'est pas toujours une question de profession ou tu sais, de... quelque chose qui va avoir, qui va profiter. Là, c'est vraiment quelque chose qu'elles incarnent entièrement puis qu'elles font dans tous les petits gestes du quotidien, absolument.
Est-ce que... C'est l'impression que j'ai eue. Je ne sais pas si mon intuition est juste, mais j'ai l'impression qu'à un moment dans le film, les propos que Tyr, Jessa et même sa mère, puis même son père mentionnent, et à la limite, l'arrière-grand-mère, sont un peu des préoccupations que tu as toi-même. Hein? Je voyais un lien entre ici, je veux dire, ce geste cinématographique de parler, je veux dire, de l'art et un peu l'arrière-pensée de la réalisatrice. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'à un moment donné, tu es un peu identifié à eux en se disant, ben c'est un peu mes alter-ego, hein?
Oui, en quelque sorte, on est différentes, mais on se rejoint beaucoup à différents égards. Là. C'est sûr que moi, j'ai fait de l'art toute ma vie. Là. J'ai fait du cirque et de la gymnastique quand j'étais jeune. J'ai étudié en théâtre, ensuite communication, cinéma. J'ai joué de la musique pendant plusieurs années. Je dessine de façon horrible. Je peux simplement faire des bonhommes allumettes, mais sinon, j'aime beaucoup les arts en général. Donc oui, c'est sûr que moi, je me projette dans ce qu'elles font. Puis c'est aussi toute l'ardeur puis la passion qu'elles mettent. Puis la persévérance, je dirais, tu sais, d'être capable de dire, OK, je vais me donner les moyens de faire des choses puis de façon indépendante et autonome, mais tu sais, ça va prendre plus de temps, sauf que tranquillement, je vais arriver. Puis elles ont vraiment des voix singulières. Ce que j'essaye aussi, moi, de travailler, là, tu sais, une voix singulière. Puis c'est, je crois que c'est à travers tous ces petits efforts-là que finalement, en regardant en arrière, il y a une signature qui s'installe.
Avec des propos qui sont assez clairs. Hein, dès le départ, on parle un peu de féminité. Hein. C'est des gens qui ont, je pense, sont engagés artistiquement parce que à travers les dessins, à travers les costumes qu'elle fabrique. Elle remet en question certains modèles, je dirais, de beauté féminine. Et ça, sans que ça soit l'objet du film, hein, ça vient par se déposer à petite dose pour nous amener à réfléchir sur ce rapport qu'on a aussi à l'image, hein, en général.
Oui, mais le film, du fait que ça soit principalement des femmes, que l'équipe clé aussi du film, là, avec ma productrice Isabelle Fanofsir, on est des femmes, donc c'est sûr qu'il y a une touche féminine. Après, effectivement, je pense qu'il y a quelque chose de féministe indirectement, parce que c'est ça, elles prennent position sur des choses, mais juste dans la façon de les faire. Ouais. Donc, sans nécessairement écrire le message gros, noir sur blanc, c'est dans la façon de dire on accepte toutes les formes, on s'accepte nous comme nous sommes, on s'accepte dans nos différences, puis on essaie d'inspirer les gens à faire la même chose. Donc ça, je pense que c'est vraiment un beau message. Puis c'est quelque chose aussi qu'elles ont fait depuis qu'elles sont toutes petites. Finalement, on se rend compte que malgré nos différences, on finit toujours par trouver des gens qui nous ressemblent un peu ou de se trouver une place. Puis c'est souvent la différence qui fait la singularité des œuvres puis de ce qu'on fait. Donc dans leur cas, elles, ça les a vraiment construite, je pourrais dire, là, en tant qu'artiste.
Et du quotidien, pour moi, on aborde presque une dimension, tantôt métaphysique, mais presque mythologique, hein? Que ce soit, je veux dire, les différents costumes qui reviennent dans le film, on ne veut pas tout dire, là, mais à la toute fin, la mère de Terry Jessop a un costume particulier. Ça aussi, ça, on vient par déborder à notre quotidien pour faire réfléchir sur le temps, sur la relation qu'on a au temps, la relation qu'on a même aussi à l'espace, la relation qu'on a à la nature. Ça, c'était au départ, ça fait partie du propos, ça s'est comme intégré, puis tu as donné finalement une dimension qui était plus large, hein, que le simple quotidien des deux protagonistes.
Mais je dirais un peu des deux, là, c'est-à-dire que
l'Islande... Eux sont peut-être comme ça, hein, aussi.
Bien, elles ont généralement, elles vont faire des choses des fois plus grandes que nature, ouais, là. Mais là, c'est vraiment qu'elles se sont inspirées des mythes puis des histoires islandaises qui, encore une fois, ça se veut pas une fresque historique, non, là. C'est vraiment réinterprété à leur façon, de façon très subjective et personnelle. Mais effectivement, il y a des costumes, puis... Aussi, c'est qu'en Islande, les paysages sont juste époustouflants. C'est direct dans notre visage. Là, t'sais, y a pas d'arbres, y a le vent, le soleil, la lumière. C'est assez impressionnant. Puis quand on est sur place, on réagit, on interagit en fait avec ce paysage-là. Donc je pense que ça aussi, ça a eu une influence certaine. Puis moi, bien évidemment, t'sais, j'ai été pigée un peu là-dedans parce que la performance qui a été créée quand même durait, je crois, 45 minutes ou presque une heure là, qui a été présentée en Islande. Évidemment, je ne peux pas présenter ça dans le film. Donc, moi, j'ai été chercher des éléments un peu plus symboliques. Là, t'sais. Donc, évidemment, la mer en reine de la montagne, puis des éléments comme ça que aussi que j'avais suivi là, le processus puis que je pouvais aller présenter là, à différents moments dans le film.
Parce que ça, on n'en a pas parlé, mais le film est un peu pas en deux temps. Disons qu'il est en deux lieux. Au début, bien sûr, ça se passe à Montréal. On apprend finalement que ses parents vivent à Vancouver. Et régulièrement, lorsqu'ils sont confrontés à ces chansons folkloriques, lorsqu'ils sont confrontés à ce passé islandais, elles mentionnent qu'ils n'ont jamais été en Islande, que tout est une réappropriation par la mémoire. Et là, tout d'un coup, bang, hein? Ils peuvent, hein, je veux dire, visiter pour la première fois leur terre natale, dans un certain sens. C'était béni des dieux, parce que c'est l'élément qui manquait au film. Parce que oui, on aurait pu faire un film, bon, sur ces deux actrices, mais le fait, je veux dire, qu'ils quittent, Montréal et se dirige en Islande, donne ici presque une trajectoire existentielle au film et nous amène dans un autre lieu, un autre monde aussi.
Oui, je pense que le film aurait été incomplet. Ouais, hein? Puis c'était vraiment dans l'optique, là, tu sais, la vision de départ du film. On doit toujours projeter un récit, là, même ben ouais, si... c'est documentaire, donc ça se dévoile devant nous, sauf qu'on doit toujours projeter quelque chose. Puis effectivement, l'Islande était toujours au bout de, du chemin.
T'as-tu parfois pas imposé, mais en disant « ça serait bien que vous y retourniez » ou « c'est le hasard »
Mais elles avaient exprimé le désir d'aller en Islande. Moi, okay. Je croyais que ça allait être à travers peut-être une tournée avec le groupe Singa, yeah. Mais finalement, ça a été vraiment bénéfique que c'est à travers une résidence d'artistes qu'elles sont allées. Ça a pris plus de temps que prévu. Donc, ouais,
parce
moi, effectivement.
Hein? C'est quoi, 5 ans? Ça?
C'est ça, 5 ans de, ben, de développement et ensuite de production. Là, mais effectivement, tu sais, j'étais un peu en attente de ce voyage-là. Donc, ça a pris plus de temps. Mais finalement, je pense que c'est ça, c'était absolument bénéfique. Puis le fait d'être en résidence d'artiste, c'est que là, ça leur a permis de rester sur place pendant 5 semaines et non pas juste d'être de passage pendant quelques jours. Donc, ça a fait vraiment une différence. Puis de faire un projet original là-bas aussi, c'est que là, ça l'a amené une toute autre dimension, puis un questionnement, tu sais, une exploration sur l'identité, la culture et tout ça. Puis effectivement, être confronté avec, tu sais, le contraste entre ce qu'elle s'imaginait de l'Islande, puis ensuite la rencontre réelle avec les lieux et les gens. Donc ça, je pense que ça a été quelque chose d'assez fort pour elle. Puis quand on est arrivé, en fait, ça l'a pris, là, je dirais, les 2 premières semaines, je commençais à angoisser parce que je me disais, est-ce que j'ai des choses à filmer? Parce qu'elle devait absorber toutes les nouvelles découvertes, puis les nouvelles rencontres, puis les paysages. Donc, il y avait beaucoup d'introspection au début. Puis là, je me demandais comment illustrer tout ça. Et puis finalement, ça l'a déboulé les 2 dernières semaines. Il y a eu comme, tu sais, on dirait qu'elles ont incubé là, tout ça. Puis ensuite, la création est sortie. Puis ça a été vraiment intense parce que, bon, c'était quand même beaucoup en peu de temps, là. Mais oui, vraiment, ça a été un super voyage.
Mais même au niveau de la rythmique du film, les images, je veux dire que, enfin, le montage hein, des images en Islande est un peu différent hein, que celle de Montréal. On sent quelque chose de plus langoureux, une volonté de un peu s'asseoir, puis regarder, puis prendre le temps d'absorber les choses. Mm-hmm. C'est ce processus-là qui t'a amené un peu à, je dirais, à jouer avec ces variations au niveau montage. Là, oui, il y a des variations au niveau de la relation entre, comme tu mentionnes, intergénérationnelle, mais aussi une variation au niveau même du rythme du film. Là.
Mm-hmm. Oui, bien, en fait, c'est sûr qu'il y a une différence dans la dynamique de ce qu'elles font. Il y avait beaucoup de choses à présenter. Tu sais, dans la première partie du film, on plante des graines là, qu'on espère qu'ils vont fleurir plus tard. Donc, il y avait aussi juste la lumière est très, très différente. À Montréal, j'étais souvent dans des situations plus sombres. Puis là, en Islande, c'était l'inverse. J'avais trop de lumière. Et puis, c'est de la lumière presque 24 heures sur 24, puisqu'on est allé au printemps. Donc, oui, effectivement, il y a un différent rythme, mais je pense que c'est important aussi d'être vraiment dans les lieux puis de contempler le paysage. Mais ça a été, oui, un défi de montage, là, je dirais, d'essayer de, tu sais, comment faire cette construction puis ce passage aussi d'un lieu à un autre, qui reste la même histoire, hein, c'est la même trame, mais ensuite, c'est ça, comment les arrimer. Donc, je pense que, tu sais, chacun a vraiment sa personnalité, mais qu'ensemble, je pense que ça se complète quand même bien. Puis vu que ça se fait progressivement, on se laisse porter, on se laisse voyager. J'espère, en tout cas.
Et il ne reste plus beaucoup de temps, quelques minutes, mais on ne l'a pas mentionné, mais tu es vraiment la femme orchestre, hein? Réalisatrice, hein? Direction photo, montage, on a pu participer à tout. C'est toute une expérience, hein?
Pour le meilleur et pour le pire,
oui. Oui, mais c'est comme ça qu'on apprend. Il faut garder.
Oui, oui. Mais en fait, je pense que ça s'est fait un peu par la force des choses. Là, c'est qu'au début, en attente de financement, j'ai pris le taureau par les cornes, puis je me suis acheté une caméra, puis j'ai commencé moi-même. Donc là, tu sais, j'ai filmé, j'ai fait la prise de son. Puis ensuite, il y a 2 moments clés là, où j'ai eu une équipe avec moi là, pour le départ en Islande, à l'aéroport, puis pour le lancement d'album de Tear, où là, il y avait comme beaucoup de choses. Mais sinon, ça a été moi, effectivement, là, qui a filmé. Puis en Islande, j'ai eu quelqu'un, là, Eric Shaw, qui est venu m'aider aussi pour le son. Puis tout l'ingénieur sonore aussi des spectacles, ces choses-là. Donc ça a été une belle aide. Puis sinon, c'est ça, il y avait ma productrice, évidemment, qui m'a accompagnée tout le long, là, Isabelle. Mais c'est surtout en post-production que là, j'ai eu beaucoup d'aide, là, en animation, en colorisation, en sound design, en musique. Donc, oui. Heureusement, vu que ça s'est fait sur plusieurs années, j'avais le choix dans quoi piger, puis j'ai gardé le meilleur. Mais oui, tu sais, c'est un peu ce qu'on appelle l'indépendance artistique, là. Ça a un prix, puis c'est le prix, c'est souvent de porter plusieurs chapeaux, puis de mettre beaucoup de temps et d'énergie.
Et en fait, c'est un peu dans tous ces moments dont tu parlais là, que pour moi, je veux dire, le film a une signature visuelle particulière. Et c'est ce rapprochement, bien sûr, entre ce monde hein, un peu métaphysique intérieur de ses sœurs et ce que toi, je veux dire, tu te transmets à l'écran là, qui, je veux dire, nous fait découvrir deux sœurs magnifiques que moi, je ne connaissais pas, hein, que j'ai découvert. Et c'est pour moi le plus vraiment l'intérêt majeur du film. Là. C'est vraiment cette harmonie entre leur musique et tout ton travail visuel là, et à la fois sonore. Catherine, merci. C'est à peu près tout le temps qu'on avait, mais quand même, là, j'ai mon petit communiqué hein, parce que le film a pris l'affiche hier au cinéma moderne, cinéma du parc. Cinéma aussi Clap, je pense, à Québec, hein?
En fait, c'est cinéma moderne et cinéma du musée.
Cinéma du musée.
Oui, et le Clap, effectivement.
Et le Clap. Et entre autres, ce soir, bon, cinéma du moderne, hein? Il y a une projection suivie d'une discussion avec toi-même et Tyr. Je pense qu'au cinéma moderne, il va y avoir aussi une exposition hein, de certaines œuvres.
Oui, c'est déjà installé. C'est un peu une extension là, de l'esthétique du film, des œuvres de Deborah Alana, Lormer, pardon, puis des œuvres de Jay Sabaka. Puis il va y avoir aussi un single qui va sortir là, de Tyr, qui est la musique du générique, donc sur toutes les plateformes bientôt.
Donc, vous voyez que pour les termes en islandais, j'ai fait attention. Je ne voulais pas trop me bourrer, donc je n'en ai pas parlé beaucoup. Donc, si vous voulez savoir toute la signification, je veux dire, des albums et de tout, il faut aller voir le film. Merci beaucoup, Catherine Legault. Donc, Sœur, rêve et variation, qui est à l'affiche depuis hier au cinéma du musée, cinéma moderne. Et bonne chance.
Merci beaucoup de m'avoir reçue.